Europe 1, il est midi. Bonjour à tous.
Europe Midi, Romain Desarbres.
Bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Et vous avez la parole, vous le savez, comme tous les jours. Mais tout d'abord, le journal d'Europe Midi avec à la une la composition du gouvernement Borne. Qui sont les pressentis pour en faire partie, pour faire partie de ce nouveau gouvernement? Nos informations dans quelques instants avec Jacques Serret. On va détailler également dans Europe Midi cette étude sur les EHPAD. Étude très intéressante, il y a de grosses disparités entre les départements en termes de tarifs pour les EHPAD et en termes de nombre de lits. Vous allez voir. Si vous voulez emprunter de l'argent pour acheter votre appartement ou votre maison, les taux augmentent nettement. On verra ça avec Élise Dangean. Et puis un extrait bouleversant dans Europe Midi du tout nouveau podcast événement d'Europe 1 en 5 épisodes sur l'affaire Estelle Mouzin. Vous entendrez le père d'Estelle évoquer ce pull rouge que portait sa fille sur la photo de l'avis de recherche. On accueille aujourd'hui David Guiraud, orateur national de la France Insoumise. Bonjour David.
Bonjour.
Guiraud. Et on accueille également Isabelle Florenne. Bonjour.
Bonjour
Isabelle Florenne. Vous êtes députée La République En Marche.
Non. Modem.
Député Modem.
De la majorité présidentielle.
Mais de la majorité présidentielle. Oui. Voilà, à tout de suite, à tous les deux.
Europe 1.
Et maintenant, au travail. Elisabeth Borne, tout juste nommée première ministre, doit maintenant composer un gouvernement. Avant de penser aux élections législatives en tant que chef de la majorité présidentielle et elle-même candidate dans le Calvados. Jacques Serret, à quoi vont ressembler précisément les premières heures d'Elisabeth Borne à Matignon? Dites-nous.
Eh bien, il s'agit d'abord pour elle de se poser en chef de la majorité. Elisabeth Borne s'est rendue à l'Assemblée nationale ce matin pour présider la réunion de groupe des députés qui soutiennent Emmanuel Macron, une revue des troupes en quelque sorte, car la première bataille de la nouvelle première ministre désormais, c'est de s'assurer que la majorité présidentielle soit reconduite aux législatives du 12 et 19 juin. La tâche qui nous attend est immense, a-t-elle lâché devant les parlementaires, confirmant au passage qu'elle maintenait sa candidature dans le Calvados. Dans le même temps, le dossier brûlant pour la nouvelle première ministre, c'est la composition de son gouvernement. Depuis hier soir, les tractations vont bon train et plusieurs responsables politiques de droite espèrent un rééquilibrage. Puisqu'Elisabeth Borne est classée à gauche, nombreux sont ceux qui font le pari qu'il y aura davantage de ministres de droite. Quelques membres du gouvernement Castex ont été sondés, ont reçu des propositions de portefeuille, mais de nouveaux noms circulent également. Ainsi, un poids lourd de la Macronie assure hors micro que Christine Lagarde, actuelle présidente de la Banque Centrale Européenne, pourrait intégrer le gouvernement d'Elisabeth Borne, auquel cas Bruno Le Maire quitterait le ministère de l'économie. Et signe que cette ouverture à droite se dessine en coulisses, le nom de Damien Abad revient avec insistance. Le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée est pressenti pour intégrer le gouvernement avant même les législatives.
Merci beaucoup Jacques Serret pour toutes ces informations sur le bureau de la nouvelle première ministre. Un bon nombre de dossiers brûlants, contexte économique oblige, les prix qui augmentent, la guerre en Ukraine qui impacte toujours le quotidien des Français, sans oublier bien sûr les conséquences de la crise sanitaire qui n'est pas tout à fait derrière nous. Bonjour Carole Ferry.
Bonjour.
Quelles sont les priorités d'Elisabeth Borne?
Écoutez, son tout premier combat va être de convaincre pour les législatives, bien sûr. Il va donc falloir installer des marqueurs forts, sans doute en priorité sur la loi pouvoir d'achat. Elle ne peut pas être lancée tant qu'il n'y a pas d'Assemblée nationale, mais les principes peuvent être annoncés, développés. On en connaît les grandes lignes sur le bouclier tarifaire, le chèque alimentation ou encore le point d'indice des fonctionnaires. Il y aura derrière, bien sûr, la fameuse réforme des retraites. Le débat pourrait commencer dès cet été ou au plus tard à l'automne. Les syndicats s'attendent en tout cas à affronter un adversaire coriace, selon le secrétaire général de Force ouvrière, Yves Verrier.
C'est quelqu'un qui écoute, c'est vrai. L'échange est facile, aisé, direct, franc. Mais le fait est que c'est quelqu'un qui n'est pas simplement sur la posture politique. Elle va dans les détails de ses dossiers, elle les maîtrise. Donc on ne peut pas parier sur une insuffisante maîtrise technique de ses dossiers. Elle est effectivement dure en affaires. Et donc elle sera difficile à convaincre. Il faudra être à la hauteur et on fera en sorte de l'être nous-mêmes convaincants.
Autre chantier prioritaire pour Elisabeth Borne, la planification écologique. Emmanuel Macron avait en effet annoncé que son Premier ministre serait directement chargé du dossier.
Carole Ferry. Merci Carole. Et à Matignon, Elisabeth Borne sera en charge de la planification écologique. Elle a certes été ministre de la transition écologique durant un an, mais elle ne semble pas avoir, on va dire, un statut d'icône verte aux yeux des Français. Pourtant, son ancienne conseillère ministérielle, Marine Braud, l'assure, Elisabeth Borne a totalement mesuré l'ampleur de l'urgence climatique. Écoutez.
Pour moi, Elisabeth Borne a totalement la fibre écologique et j'irais même au-delà de ça. En fait, elle a fait une mue où elle a compris les enjeux environnementaux et en fait, sa conviction environnementale, elle a été acquise progressivement, par exemple sur les enjeux de biodiversité quand elle est arrivée. C'est vrai qu'elle connaissait pas forcément tous les sujets et tous les enjeux, mais elle s'est formée, elle a écouté ses conseillers, elle a rencontré des experts et elle s'est forgée une conviction très forte. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est quelqu'un qui maîtrise très bien ses dossiers. Donc typiquement pour quelqu'un qui doit penser la planification écologique et la façon dont on va devoir faire bouger nos modes de production et nos modes de consommation dans les années qui viennent, pour moi c'est un profil idéal.
Marine Braud, qui est ancienne conseillère d'Elisabeth Borne, donc au ministère de la Transition écologique et actuelle membre du think tank Terra Nova. Elisabeth Borne, nommée Premier ministre, elle aura droit aux différents services mis à sa disposition par l'État, un cabinet, un bureau situé à Matignon, bien sûr, une voiture blindée avec chauffeur, une protection rapprochée organisée par le GSPM, le groupe de sécurité du Premier ministre. Elisabeth Borne bénéficiera également d'un salaire, 15 000 euros bruts par mois, 12 700 euros net, rémunération presque identique à celle du président de la République. Ses dépenses téléphoniques ainsi que les déplacements liés à sa fonction seront également prises en charge, autant d'avantages qui marquent la reconnaissance de la République et qui sont censés compenser le poids de la fonction. Voilà ce que l'on peut dire donc sur la nomination d'Elisabeth Borne à Matignon et sur la composition en ce moment même du nouveau gouvernement. On a beaucoup parlé des EHPAD ces derniers mois. Le scandale Orpea a révélé les conditions d'accueil parfois déplorables dans les établissements privés pour personnes âgées et le manque de moyens dans certaines structures. Suite à ces révélations, des résidents et leurs familles ont pu être tentés de se rapprocher des EHPAD publics. Mais il est souvent très difficile d'y trouver des places. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle dans Europe Midi. Bonjour Céline Géraud.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Une étude de l'UFC Que Choisir révèle aujourd'hui qu'il y a d'énormes disparités selon les départements.
Oui, et ces disparités, vous l'avez dit, sont à la fois géographiques mais aussi économiques. Alors pour commencer, le nombre de places en EHPAD varie du simple au quadruple selon les départements. Par exemple en Lozère, pour 1000 habitants de plus de 75 ans, il existe 169 places, mais seulement 41 à Paris. Fracture territoriale mais aussi financière. En France, le loyer mensuel moyen pour une place en EHPAD est de 2214 euros. Alors si vous habitez dans la Meuse, Bonne Pioche, c'est ici que vous paierez le moins cher, 1749 euros. En revanche, dans le Rhône, les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes, on passe à 2600 euros et sans surprise, on frôle les 3700 euros à Paris. Des différences de prix qui s'expliquent par le nombre de structures privées très élevées dans certains départements. Un EHPAD privé détient en moyenne 23% des places, mais dans 8 départements, ce pourcentage grimpe à plus de 50% et même à près de 64% dans les Bouches-du-Rhône. Pour éviter ces dérives et pour que chaque senior puisse trouver une chambre à un tarif raisonnable, l'association UFC Que Choisir demande la création de places en EHPAD dans le secteur public en priorité, un plafonnement des tarifs dans le privé et la mise en place d'un bouclier dépendance financé par la Solidarité nationale.
Céline Géraud, merci beaucoup Céline. Il est midi 9, restez bien avec nous sur Europe 1 dans Europe Midi. Dans un instant, on va parler des taux d'intérêt et des crédits immobiliers. Ça commence à augmenter nettement. À tout de suite.
Europe Midi, Romain Desarbres.
Le pouvoir d'achat et la situation économique totalement bouleversée. On le sait, l'inflation est bien présente et cela ne devrait pas aller en s'arrangeant. Pour lutter contre la hausse des prix, la BCE, la Banque Centrale Européenne, a décidé de remonter ses taux d'intérêt. Alors c'est un petit peu technique toujours, mais ça a des conséquences très concrètes sur nos dépenses du quotidien. Par exemple, Élise Dangean, les taux d'intérêt des crédits immobiliers vont grimper.
Oui, des taux qui pourraient bien dépasser la barre symbolique des 2% d'ici la fin de l'année, selon plusieurs spécialistes. Mais je peux vous dire qu'au sein des banques françaises, on fait tout pour limiter la casse. Car plus les taux augmentent, moins les Français peuvent emprunter, ce qui leur fait évidemment perdre des clients potentiels. Il faut piloter plus finement, explique-t-on au Crédit Agricole. En effet, les comités qui définissent au sein des banques les taux d'intérêt intérêts à venir doivent désormais se réunir plus régulièrement. On regarde aussi ce que fait la concurrence, confie une grande banque française. En tout cas, toutes ont les yeux rivés sur la Banque Centrale Européenne qui doit relever ses taux directeurs cet été. Mais la stratégie, c'est donc de faire remonter les taux des crédits immobiliers en douceur, quitte à ne pas faire de marge. On ne peut pas donner un coup de frein trop brutal, dit une spécialiste, car d'ores et déjà, certaines demandes de prêts qui passaient il y a encore 2-3 mois sont désormais retoquées. Et il va falloir s'y faire, car même si les taux restent historiquement bas, leur hausse est partie pour durer.
La guerre en Ukraine, désormais, on apprenait hier soir que 264 combattants ukrainiens retranchés dans l'usine Azovstal de Mariupol avaient été évacués. Mais ce matin, Moscou assure que tous les combattants ont été faits prisonniers, information démentie par les autorités ukrainiennes. Et puis ce matin, le chef de la diplomatie russe a tenu une grande conférence de presse à Moscou. Sergueï Lavrov réitère ses attaques contre l'OTAN. Il estime que l'organisation veut s'étendre vers l'Est et constitue une menace pour la sécurité de la Russie. Propos tenus alors que les parlementaires suédois et finlandais sont sur le point d'entériner la demande d'adhésion de leur pays à l'Alliance Atlantique. L'affaire Estelle Mouzin à présent et ce podcast événement avec Europe 1 disponible à partir d'aujourd'hui. 5 épisodes sur la disparition de la petite fille qui avait attristé la France entière. Je voulais vous faire écouter un extrait dans Europe Midi. On a tous en tête la photo de la fillette qui apparaissait avec un pull rouge sur l'avis de recherche déployé dans tout le pays en 2003. Et bien dans le podcast événement d'Europe 1, qui sort aujourd'hui avec Spotify, le père d'Estelle Mouzin, Éric Mouzin, fait une confidence. Le pull rouge que porte sa fille sur la photo lui appartenait. Écoutez.
Le pull a été tricoté par la grand-mère d'Estelle, qui bien sûr garde des bouts de laine pour réparer les trous. Donc, des policiers partent toutes sirènes hurlantes au domicile de la grand-mère. Et je trouvais ça très symbolique, en fait.
C'est quelque chose qui vous touche encore maintenant ce...
Oui, oui. Parce que le pull, c'était le mien.
Voilà un extrait du premier épisode de ce podcast intitulé « L'ombre ». Il est disponible donc à partir d'aujourd'hui, c'est gratuit, sur la plateforme de notre partenaire Spotify. Cela faisait 2 ans que la pandémie bousculait l'événement, mais ce soir on va retrouver le Festival de Cannes, que l'on connaît, vous entendez la petite musique, sans masque, c'est important de le préciser, avec des stars venues du monde entier. Cette 75e édition va commencer par la projection d'une comédie intitulée Coupé. On y voit Bérénice Bejo et Romain Duris en train d'essayer de réaliser un film sur les zombies, le tout sous la direction de Michel Hazanavicius, le réalisateur d'OSS 117 ou de The Artist notamment, a confié sa joie d'ouvrir les festivités. Il l'a confié à Marie Jiquel.
Je suis hyper content, flatté, honoré. Enfin, il y a vraiment un truc très prestigieux, je trouve, d'ouvrir le Festival de Cannes. En plus, c'est une année anniversaire, salle de 3000 personnes sur une comédie. Bon, alors, si je me prends un vent total, ça peut être catastrophique, mais je crois pas. Je crois que le film va les faire marrer, donc je suis content. En fait, il a pour personnage des gens qui font du cinéma. Ils font un film qui s'avère se prendre les pieds dans le tapis. Donc, le film est un peu raté, il faut avouer. Pour autant, ils le font le mieux qu'ils peuvent. Ils se battent contre l'adversité, voilà, tout le temps. Et au final, ils ont un truc, je dirais, quasi héroïque, qui les rend sublimes.
Et cette année, le jury du Festival de Cannes est présidé par l'acteur Vincent Lindon, qu'on connaît tous, bien sûr, les strass, les paillettes, les stars sont donc de retour. Et les professionnels et les touristes étrangers se bousculent sur la croisette. Écoutez ce reportage Europe 1 de notre correspondant Frédéric Michel.
Indien, anglais, allemand, devant le palais des festivals, on parle toutes les langues. Louis-Paul est venu couvrir la quinzaine du cinéma pour un média québécois.
Ça fait plaisir de revenir. Je le retrouve comme il était. J'étais pas venu l'an dernier. J'ai hâte de commencer le festival avec le soleil en plus.
Hôtel Martinez, concierge, good morning.
À l'hôtel Martinez, la clientèle est à 80% étrangère. Yann Gillet est le directeur général de l'établissement.
C'est quelque chose qui nous a surpris de voir un démarrage aussi rapide avec la clientèle internationale, surtout une clientèle américaine, sud-américaine, du Moyen-Orient qui revient en force. On n'a pas que les stars, on a bien sûr les festivaliers, puis on a aussi quelques touristes qui découvrent l'ambiance festival.
Même le célèbre gang des escabeaux installé devant les marches du palais accueille des chasseurs d'autographes du monde entier. Joe a 35 ans de festival à son compteur.
On a commencé par un escabeau de deux marches, pas trop haut. Et puis comme on n'y voyait pas assez, on a mis un plus haut et plus haut. Et puis les gens ont suivi. Le dernier, j'ai compté, il y en avait 127 escabeaux. Chanel en face, il nous prend pour Castorama, il a dit.
Et c'est ça aussi la magie de Cannes, la rencontre de passionnés du 7e art venus du monde entier.
La magie de Cannes avec Frédéric Michel. Il est midi 16. La météo avec vous, Anissa Dadi, avec un grand et beau soleil aujourd'hui partout en France.
Oui, c'est vrai que depuis ce matin, le soleil brille sur quasiment tout le pays, dans une atmosphère qui reste quand même très chaude, voire même lourde par endroit, puisqu'on a 34 degrés à Cahors cet après-midi, 33 à Montauban, 32 degrés pour Lyon, Brive et Toulouse, 31 à Nantes et à Limoges, 30 degrés pour Paris et Clermont-Ferrand, 29 à Besançon, 28 pour Lille et Biarritz, 27 à Nancy, 26 pour Ajaccio. Alors c'est vrai qu'il fait bien meilleur au bord de la Manche et au bord de la Méditerranée, avec 24 degrés à Quimper et Perpignan, 25 pour Marseille et 21 degrés à Nice. Alors attention tout de même cet après-midi, si vous nous écoutez du côté de la Bretagne ou de la Normandie, ça va se couvrir au fil des heures et vous aurez peut-être des averses orageuses en fin de journée.
Merci Anissa, midi 17. Restez bien avec nous sur Europe 1 dans Europe Midi. Dans un instant, on va parler d'Elisabeth Borne. Tiens, est-ce que ce choix vous satisfait? Qu'est-ce que vous en pensez de la nouvelle Première Ministre? Vous appelez le 39-21 et on va en débattre, en parler avec vous et avec Isabelle Florenne, députée Modem, majorité présidentielle, et avec David Guiraud, orateur national de la France Insoumise. A tout de suite.
Pour intervenir et dialoguer avec Romain Desarbres sur Europe 1, un seul numéro, 39-21, 50 centimes la minute.